commerçants d'Europe, Léonard Vincent.
Bonjour, bienvenue dans Accent d'Europe. Nous allons tout d'abord nous rendre en Italie, où le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni n'a cessé d'entraver le travail des ONG d'aide aux migrants, que son camp politique accable depuis des années d'accusations diverses. Alors maintenant, que va faire Giorgia Meloni de son bon résultat aux élections européennes et des 28% remportés par son parti, Fratelli d'Italia? Du côté des associations de secours en mer ou de celles qui fournissent une assistance matérielle et logistique à terre, ainsi que des conseils juridiques et bien sûr un soutien psychologique, on craint un durcissement politique. Notre envoyé spécial en Italie, Daniel Valo, s'est rendu auprès de ces associations dont la marge de manœuvre s'est considérablement réduite depuis l'automne 2022. On écoute son reportage.
Pirluigi, ma che fai qua?
La nuit vient de tomber dans le quartier de San Lorenzo à Rome. Nous sommes en contrebas du Verano, le plus grand cimetière de la ville. C'est ici que tous les soirs, les bénévoles de l'ONG Baobab Experience viennent en aide aux migrants illégaux que la route de l'exil a conduit jusqu'à Rome.
Ici, on aide avec quelque chose à manger, des vêtements, des couverts ou des sacs à coucher pour la nuit. Parce qu'il n'y a pas de centre pour les migrants en transit à Rome.
Et là, les personnes qui sont là, elles viennent d'où, vous savez, à peu près ?
Éthiopie, Érythrée, Soudan.
Et pour vous, c'est important de faire ça ?
Oui, c'est très important. C'est très important. Nous pensons que le droit de transiter, c'est un droit universel et c'est un droit que tout le monde doit avoir.
Mais il y a beaucoup de monde en Europe et en Italie qui ne sont pas d'accord avec ça.
Oui, il y a beaucoup de monde, mais c'est très important d'affirmer l'importance des droits de transiter.
Le long du mur, assis sur le trottoir, Jack vient de terminer son repas. Des pâtes au pesto, un fruit et quelques biscuits. Maintenant rassasié, ce jeune Soudanais nous raconte son périple. De son pays en guerre à la Libye, puis à la Tunisie, et enfin la traversée de la mer Méditerranée.
Je suis arrivé à Lampedusa, et de Lampedusa, ils nous ont emmenés en Sicile, à Catane, et ensuite à Rome.
Et quelle est votre situation ici? Où est-ce que vous dormez?
Je dors dans la rue, dans le froid. Il n'y a que ces gens qui nous aident, qui nous donnent à manger le soir.
Durant la campagne électorale qu'il a menée au pouvoir en 2022, Giorgia Meloni a promis un blocus maritime pour empêcher l'arrivée des réfugiés sur le sol italien. Une promesse radicale que la dirigeante n'a jamais appliquée. Mais son gouvernement a rendu plus difficile le travail des ONG qui viennent en aide aux réfugiés, que ce soit en mer lors des sauvetages ou sur terre une fois débarqués. Quant à la situation en Italie des migrants illégaux, elle n'a fait qu'empirer, à l'image des conditions de vie dans les centres de rétention où sont entassés une partie des réfugiés. Chiara Marchetti est volontaire au sein de l'association Centre Immigration Asile. Elle a pu se rendre dans l'un de ces centres situés dans les environs de Parme.
À Parme, nous avions déjà une capacité d'accueil de 1000 places environ. Mais cet été, le gouvernement a ouvert un centre d'urgence à 15 km du centre-ville, dans une usine abandonnée. Les réfugiés sont installés à 4 ou 6 personnes par container et sans aucune séparation entre les familles, les hommes, les enfants et les mineurs. Enfin, il n'y a aucune aide légale, pas de cours d'italien, pas de soutien psychologique.
Le gouvernement italien de Giorgia Meloni a durci les conditions de vie pour les réfugiés qui arrivent sur la péninsule. Mais pour en réduire le nombre, il a lancé un autre projet qui a suscité la polémique en Italie. L'ouverture de 2 centres de rétention situés non pas sur le territoire italien, mais en Albanie. Fabrizio Corezzi est chercheur au sein de l'ONG Action Aid.
Questo accordo con l'Albania.
C'est une forme de délocalisation pour contourner tout ce que la justice italienne ne permet pas de faire. Et dans ces centres délocalisés, il n'y aura aucune garantie de contrôle. Cela confirme que l'Italie est une sorte de laboratoire pour les pays européens, un labo de toutes les politiques les plus dures et les plus restrictives en matière d'accueil des réfugiés.
Même inquiétude, même préoccupation au sein de Baobab Experience pour Alice Basiglini, vice-présidente de l'ONG. Giorgia Meloni veut à la fois servir de modèle au sein de l'Union européenne et adresser un message politique à ses électeurs.
Giorgia Meloni est clairement en train d'aggraver les choses pour les réfugiés en rendant les voyages de moins en moins sûrs, de plus en plus dangereux et mortels. Et puis une fois arrivées, toutes ces personnes sont laissées dans un vide juridique pendant très longtemps, sans avoir la possibilité d'obtenir des documents, sans hébergement et sans possibilité de travailler légalement.
Est-ce que pour vous, l'objectif de Meloni, c'est de faire en sorte que les migrants ne restent pas en Italie, qu'ils aillent ailleurs en Europe, ou c'est d'envoyer un message dans leur pays pour que les gens ne viennent plus en Italie?
Ni l'un ni l'autre. Je pense que l'objectif principal de Meloni est de surfer sur la rhétorique de la prétendue invasion de migrants, parce que c'est utile à son récit politique. Au niveau économique et international, elle ne s'est pas vraiment différenciée des gouvernements qui l'ont précédée, donc elle se sert de ce thème comme d'un leurre pour l'opinion publique.
Un discours qui semble fonctionner, puisqu'au sein de l'UE, Giorgia Meloni est l'une des rares dirigeantes à être sortie renforcée des dernières élections européennes. Quant à sa politique migratoire, bien que dénoncée par les ONG italiennes, elle a servi de référence et de modèle aux partis conservateurs de nombreux pays européens durant la campagne électorale.
Hi, I'm Sumi Somaskanda. For the BBC World Service, this is the global story.
Intéressons-nous maintenant à la BBC, The Bib, comme on la surnomme familièrement, au Royaume-Uni. Certains politiques en France voudraient s'inspirer de ce modèle pour les chaînes du groupe France Télévisions, Radio France et France Média Monde. Eh bien, au Royaume-Uni, la BBC est désormais présente dans tous les formats, radio, télévision et écrit à la fois sur Internet et dans des magazines papier. On y privilégie désormais la synergie, comme on dit, de certaines personnalités sur plusieurs antennes, à la fois pour des raisons de budget restreint et de volonté de stariser certains journalistes. C'est un reportage à Londres de Marie Billon.
Malmo.
À l'oreille, aucune différence entre ce sujet diffusé à la télévision sur les manifestations juste avant la finale de l'Eurovision en Suède pour le journal quotidien de la BBC à 18h.
These demonstrations are an expression of anger. Anger about Israel.
Pas de différence audible donc avec ce sujet, diffusé à la radio, cette fois au bulletin d'information de 18h aussi.
These demonstrations are an expression of anger. Anger about Israel.
La seule différence est à la fin. Dans la version télé, David Stiletto enchaîne sans transition ni reprise de parole pour le présentateur avec un direct pour conclure. En radio, pas d'intervention en direct, le journaliste ne peut pas être à deux endroits à la fois. La synergie fonctionne aussi sur des terrains plus compliqués, comme au Moyen-Orient ou en Ukraine par exemple, avec des envoyés spéciaux de renom. Mais il ne faut pas imaginer le journaliste de la BBC seul en train de jouer les couteaux suisse de l'information. Chaque journaliste du service audiovisuel public britannique a une vraie équipe avec lui ou avec elle, composée de journalistes, d'enquêteurs, d'assistants, de producteurs, l'équivalent de nos rédacteurs en chef. Tout est fait pour que le journaliste puisse se concentrer sur son direct, sur son histoire.
If you're a Labour-run local authority and you can successfully blame a Conservative government, does that act as something of a temper? Maybe.
Ça, c'est Chris Mason, l'un des spécialistes politiques de la BBC. La journée, le soir et même une partie de la nuit pendant les élections locales qui se sont tenues le 2 mai en Angleterre et au Pays de Galles, Chris Mason était partout, en direct à la télévision, à la radio et même livrant ses analyses à l'écrit sur le site internet, jusque sur les réseaux sociaux. Il a ensuite participé au podcast Newscast les 1er et 3 mai, mais pas celui du 2 mai quand même. Il y a un peu une starisation de certains journalistes de la BBC. Des voix et des visages à qui on fait confiance pour expliquer et dévoiler la vie politique notamment, mais il en est de même pour d'autres thèmes, éducation, santé, genre et LGBT et d'autres encore. Tim Crook a été un de ces correspondants, comme on les appelle, spécialisés dans la justice, c'était dans les années 90.
Ils appelaient ça du journalisme bimédia. Ça a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par les comptables et les responsables éditoriaux quand leur budget était réduit. Et ça a été présenté comme quelque chose qui serait à l'avantage des journalistes. Les gens de radio ne faisaient pas que de la radio et pouvaient aussi devenir des stars du petit écran. Et ceux de la télé pouvaient s'essayer à la radiophonique.
Tim Crook, ça se sent, n'était pas fanat de l'idée. Il a vite vu aussi la différence de couverture sur les deux médias. Quand la télévision restait sur une histoire toute la journée, la radio, elle, était plus flexible et pouvait couvrir plusieurs décisions de justice.
Il y a du bon et du mauvais, mais j'ai réalisé en faisant l'expérience moi-même de passer de la radio à la télé en une journée que le cerveau ne fonctionne pas pareil. On n'utilise pas la même mécanique pour travailler pour ces deux médias, car ce n'est pas la même culture. Et puis à cette époque, fin années 80, début années 90, la qualité son de la télévision était moins bonne que la qualité son de la radio.
Depuis, la télé et la radio ont finalement fait un pas d'écart avec deux plateformes internet différentes, BBC iPlayer, créé en 2007 pour toutes les chaînes de télévision de la BBC.
New for 2023. On BBC iPlayer.
Et BBC Sounds, né en 2018 pour toutes les radios de la BBC.
BBC Sounds, music, radio, podcasts.
Toutes les chaînes de télévision sont donc disponibles sur le BBC iPlayer. Toutes les chaînes de radio sont rassemblées sur la plateforme BBC Sounds. Et toutes chaînes de télévision et de radio portent l'entête BBC dans leur nom, de l'international BBC World au local, comme par exemple pour la radio BBC Norfolk.
On the BBC Sounds app, on your smart speaker, play BBC Radio Norfolk, and on your radio. The sound of Norfolk is BBC Radio Norfolk.
Mais partout, la BBC doit faire des économies depuis le début des années 2000. Alors par exemple, elle raccourcit des programmes comme la fameuse émission de politique sur la télévision BBC One Newsnight, plus court désormais de 10 minutes. En 2022, déjà, les radios locales ont réduit le nombre de leurs employés et ont créé des contenus diffusables sur toutes les antennes, car la BBC est financée à 65% par la license fee, la redevance audiovisuelle qui frise les 200 euros par foyer par an depuis le 1er avril dernier. Lucy Fraser, la ministre de la Culture et des Médias, a dit à la chaîne privée ITV qu'elle avait peur que cela fasse trop cher pour les Britanniques.
Le coût de la vie nous inquiète. Nous voulons nous assurer que les foyers aient les moyens de payer leurs factures. C'est pour cette raison que nous avons gelé le coût de la redevance pendant 2 ans et nous regardons de près à quel point cette redevance reste dans les moyens du public.
Le gouvernement a parfois organisé des boycotts de la BBC, surtout sous Boris Johnson, en voyant des ministres dans tous les médias sauf l'audiovisuel public, l'accusant de manquer d'impartialité. Si les audiences sur les ondes hertziennes et FM sont en baisse, la fréquentation sur BBC iPlayer a augmenté de 11% en 2022 et sur BBC Sound, c'est plus 50% pour la même année.
Notre chronique en un mot aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, vient du monde anglophone. Le mot, c'est Metrolink, le nom du futur métro de Dublin. Rappelons qu'un métro pour Dublin, c'est un vieux projet dont on parle depuis au moins 20 ans, car la capitale irlandaise, contrairement à la plupart des capitales européennes, ne dispose pas de système de transport souterrain, une situation qui est en passe de changer, mais non sans mal. Clémence Pénard.
Entièrement électrique et sans conducteur, le Metrolink devrait traverser Dublin avec près de 20 km de lignes ferroviaires. En fait, Metrolink a été proposé pour la première fois il y a déjà près de 20 ans, c'était en 2005. Or, le projet a changé à maintes reprises et les décideurs politiques n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur un tracé final. Les appels au développement des transports publics et à la décarbonation dans cette ville saturée de voitures se sont multipliés depuis lors. Et aujourd'hui, Metrolink a enfin reçu l'approbation tant attendue du gouvernement pour aller de l'avant. Eamon Ryan, ministre des Transports en Irlande, au micro de la RTE.
Ce projet de transport public à grande capacité va transformer des villes comme Swords, Ballymun, le nord de la ville, avec des connexions au sud. Ça a donc du sens en matière de transport.
Selon Eamon Ryan, Metrolink promet donc de connecter plusieurs petites villes au nord de Dublin et surtout l'aéroport au centre-ville de Dublin. Les enjeux sont ainsi multiples, réduire le temps de trajet des citoyens, permettre un meilleur accès à l'emploi et désenclaver ainsi certains territoires. Et pour ce faire, l'enveloppe est aujourd'hui estimée à 9,5 milliards d'euros, bien que l'ancien Premier ministre, Leo Varadkar, ait précédemment averti que ce montant pourrait atteindre 21 milliards d'euros, ce qui n'est pas au goût de ce présentateur de la radio Newstalk.
Il y a 4 ans, on parlait de 4 milliards d'euros pour le construire, ce qui représentait beaucoup d'argent à l'époque. Aujourd'hui, c'est 9 milliards et demi d'euros. Le métro pourrait transporter 15 000 personnes par heure dans les deux sens, mais nous n'avons simplement pas la population pour justifier cela. Je veux dire, pensez à ce que vous pourriez faire avec 9 milliards et demi d'euros en termes d'infrastructures de transport à Dublin. Ça ne vaut pas le coup. Je suis un métro sceptique.
Et ce n'est pas le seul de nombreux résidents de maisons menacées de démolition pour faire place au Metrolink sont, on le comprend, furieux. Il s'agit notamment des 78 logements d'un immeuble du centre-ville de Dublin qui devrait être détruit pour construire l'une des stations du métro. Un pub vieux de 200 ans, mentionné dans Ulysse du célèbre écrivain irlandais James Joyce, est également concerné. Enfin, plusieurs citoyens se sont opposés à la démolition des bâtiments sur O'Connell Street, en grande partie néoclassique des années 1930, en particulier l'ancien cinéma Carlton.
Good morning, Clemence.
Paolo Carbone est le responsable des trains et métros de l'agence étatique TII, Transport Infrastructure Irlande.
Les travaux pourraient commencer à la fin de l'année 2026 et devraient durer entre 9 et 10 ans. Environ 120 parties tiers ont déposé des observations. Nous répondons à chacune d'entre elles. TII s'engage avec tous les résidents, toutes les personnes concernées tout au long du processus. Et oui, les discussions sont toujours en cours.
Mais le montant d'une compensation pour leurs pertes n'a pas encore été convenu.
Hush, little baby, it's only rock and roll. And rock and roll is good for your soul.
Un trio de rock londonien avec un nom méditerranéen pour terminer cette émission. C'est le choix de la chronique musique que nous propose aujourd'hui Vincent Teval.
Nouvelle coqueluche de la scène rock anglaise, le trio Bar Italia s'est formé en 2019 à Londres et s'est rapidement trouvé au centre de toutes les attentions avec une poignée de disques fidèles au canon du genre. Guitare, basse, batterie, voix hésitante et juvénile et une vibration punk qui parcourt à la fois leur musique et leur attitude. L'an dernier, Bar Italia a passé la vitesse supérieure en publiant 2 albums coup sur coup. Et le trio embraye aujourd'hui avec un nouveau maxi, l'excellent The Twats, qui sort pile à temps pour une tournée estivale qui va sillonner l'Europe, en passant par la France, la Croatie, le Danemark, la Pologne, le Portugal, l'Islande et j'en passe. À ne pas manquer si vous aimez les chansons mal coiffées.
C'était le groupe Bar Italia avec leur titre « The Only Conscious Being in the Universe ». Voilà, c'était Accent d'Europe à la réalisation. Françoise Grelot, restez avec nous, l'information continue sur RFI.
faut